La Chartreuse de Parme, livre 1, chapitre 6. Nous avouerons avec sincérité que la jalousie du chanoine Borda n'avait pas absolument tort. À son retour de France, Fabrice parut aux yeux de la comtesse Pietranera comme un bel étranger qu'elle eût beaucoup connu jadis. S'il eût parlé d'amour, elle l'eût aimé. N'avait-elle pas déjà pour sa conduite et sa personne une admiration passionnée et pour ainsi dire sans bornes? Mais Fabrice l'embrassait avec une telle effusion d'innocente reconnaissance et de bonne amitié qu'elle se fût fait horreur à elle-même si elle eût cherché un autre sentiment dans cette amitié presque filiale. Au fond, se disait la comtesse, quelques amis qui m'ont connue il y a 6 ans à la cour du prince Eugène peuvent encore me trouver jolie et même jeune. Mais pour lui, je suis une femme respectable. Et s'il faut tout dire sans nul ménagement pour mon amour-propre, une femme âgée. La comtesse se faisait illusion sur l'époque de la vie où elle était arrivée. Mais ce n'était pas à la façon des femmes vulgaires. À son âge, d'ailleurs, ajoutait-elle, on s'exagère un peu les ravages du temps. Un homme plus avancé dans la vie... La comtesse, qui se promenait dans son salon, s'arrêta devant une glace, puis sourit. Il faut savoir que depuis quelques mois, le cœur de Madame Pietranera était attaqué d'une façon sérieuse et par un singulier personnage. Peu après le départ de Fabrice pour la France, la comtesse, qui, sans qu'elle se l'avouât tout à fait, commençait déjà à s'occuper beaucoup de lui, était tombée dans une profonde mélancolie. Toutes ses occupations lui semblaient sans plaisir, et, si l'on ose ainsi parler, sans saveur. Elle se disait que Napoléon, voulant s'attacher ses peuples d'Italie, prendrait Fabrice pour aide de camp. « Il est perdu pour moi, » s'écriait-elle en pleurant, « je ne le reverrai plus. Il m'écrira, mais que serai-je pour lui dans 10 ans ?» Ce fut dans ces dispositions qu'elle fit un voyage à Milan. Elle espérait y trouver des nouvelles plus directes de Napoléon et, qui sait, peut-être par contre-coup, des nouvelles de Fabrice. Sans se l'avouer, cette âme active commençait à être bien lasse de la vie monotone qu'elle menait à la campagne. « C'est s'empêcher de mourir, disait-elle, ce n'est pas vivre. Tous les jours voir ces figures poudrées, le frère, le neveu Ascagne, leur valet de chambre, que seraient les promenades sur le lac sans Fabrice? Son unique consolation était puisée dans l'amitié qui l'unissait à la marquise. Mais depuis quelque temps, cette intimité avec la mère de Fabrice, plus âgée qu'elle et désespérant de la vie, commençait à lui être moins agréable. Telle était la position singulière de Madame Pietranera. Fabrice partit. Elle espérait peu de l'avenir. Son cœur avait besoin de consolation et de nouveauté. Arrivée à Milan, elle se prit de passion pour l'opéra à la mode. Elle allait s'enfermer toute seule, durant de longues heures, à la Scala, dans la loge du général Scotti, son ancien ami. Les hommes qu'elle cherchait à rencontrer pour avoir des nouvelles de Napoléon et de son armée lui semblaient vulgaires et grossiers. Rentrée chez elle, elle improvisait sur son piano jusqu'à 3 heures du matin. Un soir, à la Scala, dans la loge d'une de ses amies, où elle allait chercher des nouvelles de France, on lui présenta le comte Mosca, ministre de Parme. C'était un homme aimable et qui parla de la France et de Napoléon de façon à donner à son cœur de nouvelles raisons pour espérer ou pour craindre. Elle retourna dans cette loge le lendemain. Cet homme d'esprit revint, et tout le temps du spectacle, elle lui parla avec plaisir. Depuis le départ de Fabrice, elle n'avait pas trouvé une soirée vivante comme celle-là. Cet homme qui l'amusait, le comte Mosca della Rovere Sorezana, était alors ministre de la guerre, de la police et des finances de ce fameux prince de Parme, Ernest IV. Si célèbre par ses sévérités que les libéraux de Milan appelaient des cruautés. Mosca pouvait avoir 40 ou 45 ans. Il avait de grands traits, aucun vestige d'importance, et un air simple et gai qui prévenait en sa faveur. Il eût été fort bien encore si une bizarrerie de son prince ne l'eût obligé à porter de la poudre dans les cheveux, comme gage de bons sentiments politiques. Comme on craint peu de choquer la vanité, on arrive fort vite en Italie au ton de l'intimité et à dire des choses personnelles. Le correctif de cet usage est de ne pas se revoir si l'on est blessé. « Pourquoi donc, comte, portez-vous de la poudre ?» lui dit Madame Pietranera la troisième fois qu'elle le voyait. « De la poudre, un homme comme vous, aimable, encore jeune, et qui a fait la guerre en Espagne avec nous ?» C'est que je n'ai rien volé dans cette Espagne et qu'il faut vivre. J'étais fou de la gloire. Une parole flatteuse du général français, Gouvion Saint-Cyr, qui nous commandait, était alors tout pour moi. À la chute de Napoléon, il s'est trouvé que, tandis que je mangeais mon bien à son service, mon père, homme d'imagination et qui me voyait déjà général, me bâtissait un palais dans Parme. En 1813, je me suis trouvé pour tout bien un grand palais à finir et une pension. Une pension? 3 500 francs comme mon mari? Le comte Pietranera était général de division. Ma pension à moi, pauvre chef d'escadron, n'a jamais été que de 800 francs. Et encore, je n'en ai été payé que depuis que je suis ministre des Finances. Comme il n'y avait dans la loge que la dame d'opinion fort libérale à laquelle elle appartenait, l'entretien continua avec la même franchise. Le comte Mosca, interrogé, parla de sa vie à Parme. En Espagne, sous le général Saint-Cyr, j'affrontais des coups de fusil pour arriver à la croix, et ensuite à un peu de gloire. Maintenant, je m'habille comme un personnage de comédie, pour gagner un grand état de maison et quelques milliers de francs. Une fois entré dans cette sorte de jeu d'échecs, choqué des insolences de mes supérieurs, j'ai voulu occuper une des premières places. J'y suis arrivé. Mais mes jours les plus heureux sont toujours ceux que, de temps à autre, je puis venir passer à Milan. Là, vit encore, ce me semble, le cœur de votre armée d'Italie. La franchise, la disinvoltura avec laquelle parlait ce ministre d'un prince si redouté, piqua la curiosité de la comtesse. Sur son titre, elle avait cru trouver un pédant plein d'importance. Elle voyait un homme qui avait honte de la gravité de sa place. Mosca lui avait promis de lui faire parvenir toutes les nouvelles de France qu'il pourrait recueillir. C'était une grande indiscrétion à Milan, dans le mois qui précéda Waterloo. Il s'agissait alors pour l'Italie d'être ou de n'être pas. Tout le monde avait la fièvre à Milan, d'espérance ou de crainte. Au milieu de ce trouble universel, la comtesse fit des questions sur le compte d'un homme qui parlait si lestement d'une place si enviée et qui était sa seule ressource. Des choses curieuses et d'une bizarrerie intéressante furent rapportées à Madame Pietranera. Le comte Mosca della Rovere Sorezana, lui dit-on, est sur le point de devenir premier ministre et favori déclaré de Ranucci Ernest IV, souverain absolu de Parme, et de plus l'un des princes les plus riches de l'Europe. Le comte serait déjà arrivé à ce poste suprême s'il eût voulu prendre une mine plus grave. On dit que le prince lui fait souvent la leçon à cet égard. « Qu'importe mes façons à votre Altesse, » répond-il librement, « si je fais bien ses affaires. » Le bonheur de ce favori, ajoutait-on, n'est pas sans épines. Il faut plaire à un souverain, homme de sens et d'esprit sans doute, mais qui, depuis qu'il est monté sur un trône absolu, semble avoir perdu la tête et montre, par exemple, des soupçons dignes d'une femmelette. Ernest IV n'est brave qu'à la guerre. Sur les champs de bataille, on l'a vu 20 fois guider une colonne à l'attaque, en brave général. Mais après la mort de son père, Ernest III, de retour dans ses états, où, pour son malheur, il possède un pouvoir sans limite, il s'est mis à déclamer follement contre les libéraux et la liberté. Bientôt, il s'est figuré qu'on le haïssait. Enfin, dans un moment de mauvaise humeur, il a fait pendre 2 libéraux, peut-être peu coupables, conseillés à cela par un misérable nommé Rassy, sorte de ministre de la justice. Depuis ce moment fatal, la vie du prince a été changée. On le voit tourmenté par les soupçons les plus bizarres. Il n'a pas 50 ans et la peur l'a tellement amoindri, si l'on peut parler ainsi, que dès qu'il parle des Jacobins et des projets du comité directeur de Paris, on lui trouve la physionomie d'un vieillard de 80 ans. Il retombe dans les peurs chimériques de la première enfance. Son favori Rassy, fiscal général ou grand juge, n'a d'influence que par la peur de son maître. Et dès qu'il craint pour son crédit, il se hâte de découvrir quelques nouvelles conspirations des plus noires et des plus chimériques. 30 imprudents se réunissent-ils pour lire un numéro du Constitutionnel ? Rassy les déclare conspirateurs et les envoie prisonniers dans cette fameuse citadelle de Parme, terreur de toute la Lombardie. Comme elle est fort élevée, 180 pieds, dit-on, on l'aperçoit de fort loin au milieu de cette plaine immense. Et la forme physique de cette prison, de laquelle on raconte des choses horribles, la fait reine de par la peur de toute cette plaine qui s'étend de Milan à Bologne. « Le croiriez-vous ? » disait à la comtesse un autre voyageur. « La nuit, au 3e étage de son palais, gardé par 80 sentinelles, qui tous les quarts d'heure hurlent une phrase entière, Ernest IV tremble dans sa chambre. Toutes les portes fermées à 10 verrous et les pièces voisines, au-dessus comme au-dessous, remplies de soldats. Il a peur des Jacobins. Si une feuille du parquet vient à crier, il saute sur ses pistolets et croit à un libéral caché sous son lit. Aussitôt, toutes les sonnettes du château sont en mouvement et un aide-de-camp va réveiller le comte Mosca. Arrivé au château, ce ministre de la police se garde bien de nier la conspiration, au contraire. Seul avec le prince et armé jusqu'aux dents, il visite tous les coins des appartements, regarde sous les lits, et, en un mot, se livre à une foule d'actions ridicules dignes d'une vieille femme. Toutes ces précautions eussent semblé bien avilissantes au prince lui-même dans les temps heureux où il faisait la guerre et n'avait tué personne qu'à coups de fusil. Comme c'est un homme d'infiniment d'esprit, il a honte de ses précautions. Elles lui semblent ridicules, même au moment où il s'y livre. Et la source de l'immense crédit du comte Mosca, c'est qu'il emploie toute son adresse à faire que le prince n'ait jamais à rougir en sa présence. C'est lui, Mosca, qui, en sa qualité de ministre de la police, insiste pour regarder sous les meubles, et, dit-on à Parme, jusque dans les études contrebasses. C'est le prince qui s'y oppose et plaisante son ministre sur sa ponctualité excessive. « Ceci est un pari, lui répond le comte Mosca. Songez au sonnet satirique dont les Jacobins nous accableraient si nous vous laissions tuer. Ce n'est pas seulement votre vie que nous défendons, c'est notre honneur. » Mais il paraît que le prince n'est dupe qu'à demi, car si quelqu'un dans la ville s'avise de dire que la veille on a passé une nuit blanche au château, le grand fiscal Rassy envoie le mauvais plaisant à la citadelle. Et une fois dans cette demeure élevée et en bon air, comme on dit à Parme, il faut un miracle pour que l'on se souvienne du prisonnier. C'est parce qu'il est militaire et qu'en Espagne il s'est sauvé 20 fois le pistolet à la main, au milieu des surprises, que le prince préfère le comte Mosca à Rassy, qui est bien plus flexible et plus bas. Ces malheureux prisonniers de la citadelle sont au secret le plus rigoureux, et l'on fait des histoires sur leur compte. Les libéraux prétendent que, par une invention de Rassy, les geôliers et confesseurs ont ordre de leur persuader que tous les mois à peu près, l'un d'eux est conduit à la mort. Ce jour-là, les prisonniers ont la permission de monter sur l'esplanade de l'immense tour, à 180 pieds d'élévation, et de là, ils voient défiler un cortège avec un espion qui joue le rôle d'un pauvre diable qui marche à la mort. Ces contes et 20 autres du même genre et d'une non moindre authenticité intéressaient vivement Madame Pietranera. Le lendemain, elle demandait des détails au comte Mosca, qu'elle plaisantait vivement. Elle le trouvait amusant et lui soutenait qu'au fond, il était un monstre, sans s'en douter. Un jour, en rentrant à son auberge, le comte se dit « Non seulement cette comtesse Pietranera est une femme charmante, mais quand je passe la soirée dans sa loge, je parviens à oublier certaines choses de Parme dont le souvenir me perce le cœur. » Ce ministre, malgré son air léger et ses façons brillantes, n'avait pas une âme à la française. Il ne savait pas oublier les chagrins. Quand son chevet avait une épine, il était obligé de la briser et de l'user à force d'y piquer ses membres palpitants. Je demande pardon pour cette phrase traduite de l'italien. Le lendemain de cette découverte, le comte trouva que, malgré les affaires qu'il appelait à Milan, la journée était d'une longueur énorme. Il ne pouvait tenir en place. Il fatigua les chevaux de sa voiture. Vers les 6 heures, il monta à cheval pour aller au Corso. Il avait quelque espoir d'y rencontrer Madame Pietranera. Ne l'y ayant pas vue, il se rappela qu'à 8 heures, le théâtre de la Scala ouvrait. Il y entra et ne vit que 10 personnes dans cette salle immense. Il eut quelque pudeur de se trouver là. « Est-il possible, dit-il, qu'à 45 ans sonnés, je fasse des folies dont rougirait un sous-lieutenant ?» Par bonheur, personne ne les soupçonne. Il s'enfuit et essaya d'user le temps en se promenant dans ces rues si jolies qui entourent le théâtre de la Scala. Elles sont occupées par des cafés qui, à cette heure, regorgent de monde. Devant chacun de ces cafés, des foules de curieux établies sur des chaises au milieu de la rue prennent des glaces et critiquent les passants. Le comte était un passant remarquable. Aussi eut-il le plaisir d'être reconnu et accosté. 3 ou 4 importuns, de ceux qu'on ne peut brusquer, saisirent cette occasion d'avoir audience d'un ministre si puissant. 2 d'entre eux lui remirent des pétitions. Le 3e se contenta de lui adresser des conseils fort longs sur sa conduite politique. « On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. On ne se promène point quand on est aussi puissant. » Il rentra au théâtre et eut l'idée de louer une loge au 3e rang. De là, son regard pourrait plonger, sans être remarqué de personne, sur la loge des secondes où il espérait voir arriver la comtesse. 2 grandes heures d'attente ne parurent point trop longues à cet amoureux. Sûr de n'être point vu, il se livrait avec bonheur à toute sa folie. La vieillesse, se disait-il, n'est-ce pas avant tout n'être plus capable de ces enfantillages délicieux? Enfin, la comtesse parut. Armé de sa lorgnette, il l'examinait avec transport. Jeune, brillante, légère comme un oiseau, se disait-il. Elle n'a pas 25 ans. Sa beauté est son moindre charme. Où trouver ailleurs cette âme toujours sincère, qui jamais n'agit avec prudence, qui se livre tout entière à l'impression du moment, qui ne demande qu'à être entraînée par quelque objet nouveau? Je conçois les folies du comte Nani. Le comte se donnait d'excellentes raisons pour être fou, tant qu'il ne songeait qu'à conquérir le bonheur qu'il voyait sous ses yeux. Il n'en trouvait plus d'aussi bonne quand il venait à considérer son âge et les soucis, quelquefois fort tristes, qui remplissaient sa vie. Un homme habile, à qui la peur ôte l'esprit, me donne une grande existence et beaucoup d'argent pour être son ministre. Mais que demain il me renvoie, je reste vieux et pauvre, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au monde de plus méprisé. Voilà un aimable personnage à offrir à la comtesse. Ses pensées étaient trop noires. Il revint à Madame Pietranera. Il ne pouvait se lasser de la regarder, et pour mieux penser à elle, il ne descendait pas dans sa loge. Elle n'avait pris Nanni, vient-on de me dire, que pour faire pièce à cet imbécile de Limercati, qui ne voulut pas entendre à donner un coup d'épée ou à faire donner un coup de poignard à l'assassin du mari. « Je me battrai 20 fois pour elle !» s'écria le comte avec transport. À chaque instant, il consultait l'horloge du théâtre, qui, par des chiffres éclatants de lumière et se détachant sur un fond noir, avertit les spectateurs, toutes les 5 minutes, de l'heure où il leur est permis d'arriver dans une loge amie. Le comte se disait « Je ne saurais passer qu'une demi-heure tout au plus dans sa loge. Moi, connaissance de si fraîche date, si j'y reste davantage, je m'affiche. Et grâce à mon âge et plus encore à ces maudits cheveux poudrés, j'aurai l'air attrayant d'un Cassandre. » Mais une réflexion le décida tout à coup. Si elle allait quitter cette loge pour faire une visite, je serais bien récompensé de l'avarice avec laquelle je m'économise ce plaisir. Il se levait pour descendre dans la loge où il voyait la comtesse. Tout à coup, il ne se sentit presque plus d'envie de s'y présenter. « Ah ! Voici qui est charmant !» s'écria-t-il en riant de soi-même et s'arrêtant sur l'escalier. « C'est un mouvement de timidité véritable ! Voilà bien 25 ans que pareille aventure ne m'est arrivée !» Il entra dans la loge en faisant presque effort sur lui-même. Et, profitant en homme d'esprit de l'accident qui lui arrivait, il ne chercha point du tout à montrer de l'aisance ou à faire de l'esprit en se jetant dans quelques récits plaisants. Il eut le courage d'être timide. Il employa son récit à laisser entrevoir son trouble sans être ridicule. « Si elle prend la chose de travers, se disait-il, je me perds à jamais. » Quoi, timide avec des cheveux couverts de poudre et qui, sans le secours de la poudre, paraît très gris. Mais enfin, la chose est vraie, donc elle ne peut être ridicule que si je l'exagère ou si j'en fais trop fait. La comtesse s'était si souvent ennuyée au château de Grianta vis-à-vis des figures poudrées de son frère, de son neveu et de quelques ennuyeux bien-pensants du voisinage qu'elle ne songea pas à s'occuper de la coiffure de son nouvel adorateur. L'esprit de la comtesse ayant un bouclier contre l'éclat de rire de l'entrée, elle ne fut attentive qu'aux nouvelles de France que Mosca avait toujours à lui donner en particulier en arrivant dans la loge. Sans doute il inventait. En les discutant avec lui, elle remarqua ce soir-là son regard, qui était beau et bienveillant. « Je m'imagine, lui dit-elle, qu'à Parme, au milieu de vos esclaves, vous n'allez pas avoir ce regard aimable, cela gâterait tout et leur donnerait quelque espoir de n'être pas pendus. » L'absence totale d'importance chez un homme qui passait pour le premier diplomate de l'Italie parut singulière à la comtesse. Elle trouva même qu'il avait de la grâce. Enfin, comme il parlait bien et avec feu, elle ne fut point choquée qu'il eût jugé à propos de prendre pour une soirée et sans conséquence le rôle d'attentif. Ce fut un grand pas de fait et bien dangereux. Par bonheur pour le ministre, qui à Parme ne trouvait pas de cruel, c'était seulement depuis peu de jours que la comtesse arrivait de Grianta. Son esprit était encore tout raidi par l'ennui de la vie champêtre. Elle avait comme oublié la plaisanterie. Et toutes ces choses qui appartiennent à une façon de vivre élégante et légère avaient pris à ses yeux comme une teinte de nouveauté qui les rendait sacrées. Elle n'était disposée à se moquer de rien, pas même d'un amoureux de 45 ans et timide. 8 jours plus tard, la témérité du comte eut pu recevoir un tout autre accueil. À la Scala, il est d'usage de ne faire durer qu'une 20aine de minutes ces petites visites que l'on fait dans les loges. Le comte passa toute la soirée dans celle où il avait le bonheur de rencontrer Madame Pietra Nera. « C'est une femme, se disait-il, qui me rend toutes les folies de la jeunesse. » Mais il sentait bien le danger. Ma qualité de pacha tout-puissant à 40 lieues d'ici me fera-t-elle pardonner cette sottise? Je m'ennuie tant à Parme. Toutefois, de quart d'heure en quart d'heure, il se promettait de partir. Il faut avouer, madame, dit-il en riant à la comtesse, qu'à Parme je meurs d'ennui et il doit m'être permis de m'enivrer de plaisir quand j'en trouve sur ma route. Ainsi, sans conséquence et pour une soirée, permettez-moi de jouer auprès de vous le rôle d'amoureux. Hélas, dans peu de jours, je serai bien loin de cette loge qui me fait oublier tous les chagrins, et même, direz-vous, toutes les convenances. 8 jours après cette visite monstre dans la loge à la Scala, et à la suite de plusieurs petits incidents, dont le récit semblerait long peut-être, le comte Mosca était absolument fou d'amour. Et la comtesse pensait déjà que l'âge ne devait pas faire objection, si d'ailleurs on le trouvait aimable. On en était à ses pensées quand Mosca fut rappelé par un courrier de Parme. On eût dit que son prince avait peur tout seul. La comtesse retourna à Grianta. Son imagination ne parant plus ce beau lieu, il lui parut désert. « Est-ce que je me serais attachée à cet homme ?» se dit-elle. Mosca écrivit et n'eut rien à jouer. L'absence lui avait enlevé la source de toutes ses pensées. Ses lettres étaient amusantes, et par une petite singularité qui ne fut pas mal prise, pour éviter les commentaires du marquis del Dongo, qui n'aimait pas à payer des ports de lettres, il envoyait des courriers qui jetaient les siennes à la poste à Côme, à Lecco, à Varèse ou dans quelque autre de ces petites villes charmantes des environs du lac. Ceux-ci tendaient à obtenir que le courrier lui rapportât les réponses. Il y parvint. Bientôt, les jours de courrier firent événement pour la comtesse. Ses courriers apportaient des fleurs, des fruits, de petits cadeaux sans valeur mais qui l'amusaient, ainsi que sa belle-sœur. Le souvenir du comte se mêlait à l'idée de son grand pouvoir. La comtesse était devenue curieuse de tout ce qu'on disait de lui. Les libéraux eux-mêmes rendaient hommage à ses talents. La principale source de mauvaise réputation pour le comte, c'est qu'il passait pour le chef du parti ultra à la cour de Parme, et que le parti libéral avait à sa tête une intrigante capable de tout, et même de réussir, la marquise Raversi, immensément riche. Le prince était fort attentif à ne pas décourager celui des deux partis qui n'étaient pas au pouvoir. Il savait bien qu'il serait toujours le maître, même avec un ministère pris dans le salon de Madame Raversi. On donnait à Grianta 1000 détails sur ses intrigues. L'absence de Mosca, que tout le monde peignait comme un ministre du premier talon et un homme d'action, permettait de ne plus songer aux cheveux poudrés, symbole de tout ce qui est lent et triste. C'était un détail sans conséquence, une des obligations de la cour, où il jouait d'ailleurs un si beau rôle. Une cour, c'est ridicule, disait la comtesse à la marquise, mais c'est amusant. C'est un jeu qui intéresse, mais dont il faut accepter les règles. Qui s'est jamais avisé de se récrier contre le ridicule des règles du whist? Et pourtant, une fois qu'on s'est accoutumé aux règles, il est agréable de faire l'adversaire schlem. La comtesse pensait souvent à l'auteur de tant de lettres aimables. Le jour où elle les recevait était agréable pour elle. Elle prenait sa barque et allait les lire dans les beaux sites du lac, à la Plignana, à Bellane, au bois de Sfondrata. Ces lettres semblaient la consoler un peu de l'absence de Fabrice. Elle ne pouvait du moins refuser au comte d'être fort amoureux. Un mois ne s'était pas écoulé qu'elle songeait à lui avec une amitié tendre. De son côté, le comte Mosca était presque de bonne foi quand il lui offrait de donner sa démission, de quitter le ministère et de venir passer sa vie avec elle, à Milan ou ailleurs. « J'ai 400 000 francs, ajoutait-il, ce qui nous fera toujours 15 000 livres de rente. » « De nouveau une loge, des chevaux, etc. » se disait la comtesse. C'était des rêves aimables. Les sublimes beautés des aspects du lac de Côme recommençaient à la charmer. Elle allait rêver sur ses bords à ce retour de vie brillante et singulière qui, contre toute apparence, redevenait possible pour elle. Elle se voyait sur le Corso, à Milan, heureuse et gaie comme au temps du vice-roi. La jeunesse, ou du moins la vie active, recommencerait pour moi. Quelquefois, son imagination ardente lui cachait les choses. Mais jamais avec elle, il n'y avait de ces illusions volontaires que donne la lâcheté. c'était surtout une femme de bonne foi avec elle-même. « Si je suis un peu trop âgée pour faire des folies, » se disait-elle, « l'envie, qui se fait des illusions comme l'amour, peut empoisonner pour moi le séjour de Milan. Après la mort de mon mari, ma pauvreté noble eut du succès, ainsi que le refus de deux grandes fortunes. Mon pauvre petit comte Mosca n'a pas la 20e partie de l'opulence que mettaient à mes pieds ces deux nigauds, Limercati et Nani. La chétive pension de veuve péniblement obtenue, les gens congédiés, ce qui eut de l'éclat, la petite chambre au 5e qui amenait 20 carrosses à la porte, tout cela forma jadis un spectacle singulier. Mais j'aurai des moments désagréables, quelque adresse que j'y mette, si, ne possédant toujours pour fortune que la pension de veuve, je reviens vivre à Milan avec la bonne petite aisance bourgeoise que peuvent nous donner les 15 000 livres qui resteront à Mosca après sa démission. » Une puissante objection, dont l'envie se fera une arme terrible, c'est que le comte, quoique séparé de sa femme depuis longtemps, est marié. Cette séparation se sait à Parme, mais à Milan elle sera nouvelle et on me l'attribuera. Ainsi, mon beau théâtre de la Scala, mon divin lac de Côme, adieu, adieu. » Malgré toutes ces prévisions, si la comtesse avait eu la moindre fortune, elle eût accepté l'offre de la démission de Mosca. Elle se croyait une femme âgée et la cour lui faisait peur. Mais ce qui paraîtra de la dernière invraisemblance de ce côté-ci des Alpes, c'est que le comte eût donné cette démission avec bonheur. C'est du moins ce qu'il parvint à persuader à son ami. Dans toutes ses lettres, il sollicitait, avec une folie toujours croissante, une seconde entrevue à Milan. On la lui accorda. « Vous jurez que j'ai pour vous une passion folle, » lui disait la comtesse un jour à Milan, « ce serait mentir. Je serais trop heureuse d'aimer aujourd'hui, à 30 ans passés, comme jadis j'aimais à 22. Mais j'ai vu tomber tant de choses que j'avais crues éternelles. J'ai pour vous la plus tendre amitié. Je vous accorde une confiance sans bornes, et de tous les hommes, vous êtes celui que je préfère. » La comtesse se croyait parfaitement sincère. Pourtant, vers la fin, cette déclaration contenait un petit mensonge. Peut-être, si Fabrice l'eût voulu, il l'eût emporté sur tout dans son cœur. Mais Fabrice n'était qu'un enfant aux yeux du comte Mosca. Celui-ci arriva à Milan 3 jours après le départ du jeune étourdi pour Novare, et il se hâta d'aller parler en sa faveur au baron Bindé. Le comte pensa que l'exil était une affaire sans remède. Il n'était point arrivé seul à Milan. Il avait dans sa voiture le duc Sanseverina Taxi, joli petit vieillard de 68 ans, gris pommelé, bien poli, bien propre, immensément riche, mais pas assez noble. C'était son grand-père seulement qui avait amassé des millions par le métier de fermier général des revenus de l'État de Parme. Son père s'était fait nommer ambassadeur du prince de Parme à la cour de, à la suite du raisonnement que voici. « Votre Altesse accorde 30 000 francs à son envoyé à la cour de, lequel y fait une figure fort médiocre. Si elle daigne me donner cette place, j'accepterai 6 000 francs d'appointement. Ma dépense à la cour de ne sera jamais au-dessous de 100 000 francs par an, et mon intendant remettra chaque année 20 000 francs à la Caisse des Affaires étrangères à Parme. Avec cette somme, l'on pourra placer auprès de moi tel secrétaire d'ambassade que l'on voudra, et je ne me montrerai nullement jaloux des secrets diplomatiques, s'il y en a. Mon but est de donner de l'éclat à ma maison nouvelle encore et de l'illustrer par une des grandes charges du pays. » Le duc actuel, fils de cet ambassadeur, avait eu la gaucherie de se montrer à demi libéral, et depuis 2 ans, il était au désespoir. Du temps de Napoléon, il avait perdu 2 ou 3 millions par son obstination à rester à l'étranger. Et toutefois, depuis le rétablissement de l'ordre en Europe, il n'avait pu obtenir un certain grand cordon qui ornait le portrait de son père. L'absence de ce cordon le faisait dépérir. Au point d'intimité qui suit l'amour en Italie, il n'y avait plus d'objection de vanité entre les deux amants. Ce fut donc avec la plus parfaite simplicité que Mosca dit à la femme qu'il adorait. « J'ai 2 ou 3 plans de conduite à vous offrir. Tout ça s'est bien combiné. Je ne rêve qu'à cela depuis 3 mois. 1. Je donne ma démission et nous vivons en bon bourgeois à Milan, à Florence, à Naples, où vous voudrez. Nous avons 15 000 livres de rente, indépendamment des bienfaits du prince, qui dureront plus ou moins. 2. Vous daignez venir dans le pays où je suis quelque chose. Vous achetez une terre, Sacca, par exemple, maison charmante au milieu d'une forêt, dominant le cours du Pô. Vous pouvez avoir le contrat de vente signé d'ici à 8 jours. Le prince vous attache à sa cour, mais ici se présente une immense objection. On vous recevra bien à cette cour. Personne ne s'aviserait de broncher devant moi. D'ailleurs, la princesse se croit malheureuse et je viens de lui rendre des services à votre intention. Mais je vous rappellerai une objection capitale. Le prince est parfaitement dévot. Et comme vous le savez encore, la fatalité veut que je sois mariée. De là un 1 000 000 de désagréments de détails. Vous êtes veuve, c'est un beau titre qu'il faudrait échanger contre un autre, et ceci fait l'objet de ma 3e proposition. On pourrait trouver un nouveau mari, point gênant. Mais d'abord, il le faudrait fort avancer en âge, car pourquoi me refuseriez-vous l'espoir de le remplacer un jour? Eh bien, j'ai conclu cette affaire singulière avec le duc Sanseverina Taxi, qui, bien entendu, ne sait pas le nom de la future duchesse. Il sait seulement qu'elle le fera ambassadeur et lui donnera un grand cordon qu'avait son père, et dont l'absence le rend le plus infortuné des mortels. À cela près, ce duc n'est point trop imbécile. Il fait venir de Paris ses habits et ses perruques. Ce n'est nullement un homme à méchanceté pour penser d'avance. Il croit sérieusement que l'honneur consiste à avoir un cordon et il a honte de son bien. Il vint il y a 1 an me proposer de fonder un hôpital pour gagner ce cordon. Je me moquais de lui. Mais il ne s'est point moqué de moi quand je lui ai proposé un mariage. Ma première condition a été, bien entendu, que jamais il ne remettrait le pied dans Parme. « Mais savez-vous que ce que vous me proposez là est fort immoral ?» dit la comtesse. « Pas plus immoral que tout ce qu'on fait à notre cour et dans 20 autres. Le pouvoir absolu a cela de commode qu'il sanctifie tout aux yeux des peuples. Or, qu'est-ce qu'un ridicule que personne n'aperçoit? Notre politique, pendant 20 ans, va consister à avoir peur des Jacobins. Et quelle peur! Chaque année, nous nous croirons à la veille de 93. Vous entendrez, j'espère, les phrases que je fais là-dessus à mes réceptions. C'est beau! Tout ce qui pourra diminuer un peu cette peur sera souverainement moral aux yeux des nobles et des dévots. Or, à Parme, tout ce qui n'est pas noble ou dévot est en prison, ou fait ses paquets pour y entrer. Soyez bien convaincus que ce mariage ne semblera singulier chez nous que du jour où je serai disgracié. Cet arrangement n'est qu'une friponnerie envers personne, voilà l'essentiel, ce me semble. Le prince de la faveur duquel nous faisons métier et marchandise n'a mis qu'une condition à son consentement. C'est que la future duchesse fût née noble. L'an passé, ma place, tout calculée, m'a valu 107 000 francs. Mon revenu a dû être au total de 122 000, j'en ai placé 20 000 à Lyon. Eh bien, choisissez. 1. Une grande existence, basée sur 22 000 francs à dépenser, qui à Parme font au moins comme 400 000 à Milan. Mais avec ce mariage, qui vous donne le nom d'un homme passable et que vous ne verrez jamais qu'à l'hôtel. 2. Ou bien la petite vie bourgeoise avec 15 000 francs à Florence ou à Naples. Car je suis de votre avis, on vous a trop admiré à Milan. L'envie nous y persécuterait, et peut-être parviendrait-elle à nous donner de l'humeur. La grande existence à Parme aura, je l'espère, quelques nuances de nouveauté, même à vos yeux qui ont vu la cour du prince Eugène. Il serait sage de la connaître avant de s'en fermer la porte. Ne croyez pas que je cherche à influencer votre opinion. Quant à moi, mon choix est bien arrêté. J'aime mieux vivre dans un quatrième étage avec vous que de continuer seule cette grande existence. » La possibilité de cet étrange mariage fut débattue chaque jour entre les deux amants. La comtesse vit au bal de la Scala le duc Sanseverine Ataxi, qui lui sembla fort présentable. Dans une de leurs dernières conversations, Mosca résumait ainsi sa proposition. « Il faut prendre un parti décisif si nous voulons passer le reste de notre vie d'une façon allègre et n'être pas vieux avant le temps. » Le prince a donné son approbation. Sanseverina est un personnage plutôt bien que mal. Il possède le plus beau palais de Parme et une fortune sans bornes. Il a 68 ans et une passion folle pour le grand cordon. Mais une tâche gâte sa vie. Il acheta jadis 10 000 francs un buste de Napoléon par Canova. Son second péché qu'il fera mourir, si vous ne venez à son secours, c'est d'avoir prêté 25 napoléons à Ferrante Palla, un fou de notre pays, mais quelque peu homme de génie, que depuis nous avons condamné à mort, heureusement par contumace. Ce Ferrante a fait 200 vers en sa vie, dont rien n'approche. Je vous les réciterai, c'est aussi beau que le Dante. Le prince envoie Sanseverina à la cour de... Il vous épouse le jour de son départ, et la seconde année de son voyage, qu'il appellera une ambassade, il reçoit ce cordon de sans lequel il ne peut vivre. Vous aurez en lui un frère qui ne sera nullement désagréable. Il signe d'avance tous les papiers que je veux, et d'ailleurs vous le verrez peu ou jamais comme il vous conviendra. Il ne demande pas mieux que de ne point se montrer à Parme, où son grand-père fermier et son prétendu libéralisme le gênent. Rassi, notre bourreau, prétend que le duc a été abonné en secret au constitutionnel par l'intermédiaire de Ferrante Palla, le poète, et cette calomnie a fait longtemps obstacle sérieux au consentement du prince. Pourquoi l'historien, qui suit fidèlement les moindres détails du récit qu'on lui a fait, serait-il coupable? Est-ce sa faute si les personnages, séduits par des passions qu'ils ne partagent point, malheureusement pour lui, tombe dans des actions profondément immorales? Il est vrai que des choses de cette sorte ne se font plus dans un pays où l'unique passion survivante à toutes les autres est l'argent, moyen de vanité. 3 mois après les événements racontés jusqu'ici, la duchesse Sanseverina Ataxi étonnait la cour de Parme par son amabilité facile et par la noble sérénité de son esprit. Sa maison fut sans comparaison la plus agréable de la ville. C'est ce que le comte Mosca avait promis à son maître, Ranucce Ernest IV, le prince régnant, et la princesse sa femme, auxquelles elle fut présentée par 2 des plus grandes dames du pays, lui firent un accueil fort distingué. La duchesse était curieuse de voir ce prince maître du sort de l'homme qu'elle aimait. Elle voulut lui plaire. Et y réussit trop. Elle trouva un homme d'une taille élevée, mais un peu épaisse. Ses cheveux, ses moustaches, ses énormes favoris étaient d'un beau blond, selon ses courtisans. Ailleurs, ils eussent provoqué, par leur couleur effacée, le mot ignoble de filasse. Au milieu d'un gros visage, s'élevait fort peu un tout petit nez, presque féminin. Mais la duchesse remarqua que pour apercevoir tous ces motifs de laideur, il fallait chercher à détailler les traits du prince. Au total, il avait l'air d'un homme d'esprit et d'un caractère ferme. Le port du prince, sa manière de se tenir, n'était point sans majesté. Mais souvent il voulait imposer à son interlocuteur. Alors il s'embarrassait lui-même et tombait dans un balancement d'une jambe à l'autre presque continuel. Du reste, Ernest IV avait un regard pénétrant et dominateur. Les gestes de ses bras avaient de la noblesse, et ses paroles étaient à la fois mesurées et concises. Mosca avait prévenu la comtesse que le prince avait, dans le grand cabinet où il recevait en audience, un portrait en pied de Louis XIV et une table fort belle de Scagliola de Florence. Elle trouva que l'imitation était frappante. Évidemment, il cherchait le regard et la parole noble de Louis XIV, et il s'appuyait sur la table de Scagliola de façon à se donner la tournure de Joseph II. Il s'assit aussitôt après les premières paroles adressées par lui à la duchesse, afin de lui donner l'occasion de faire usage du tabouret qui appartenait à son rang. À cette cour, les duchesses, les princesses et les femmes des grands d'Espagne s'assoient seules. Les autres femmes attendent que le prince ou la princesse les y engage. Et, pour marquer la différence des rangs, ces personnages augustes ont toujours soin de laisser passer un petit intervalle avant de convier les dames non-duchesses à s'asseoir. La duchesse trouva qu'en de certains moments, l'imitation de Louis XIV était un peu trop marquée chez le prince. Par exemple, dans sa façon de sourire avec bonté tout en renversant la tête. Ernest IV portait un frac à la mode arrivant de Paris. On lui envoyait tous les mois de cette ville, qu'il arborait, un frac, une redingote et un chapeau. Mais, par un bizarre mélange de costumes, le jour où la duchesse fut reçue, il avait pris une culotte rouge, des bas de soie et des souliers fort couverts, dont on peut trouver les modèles dans les portraits de Joseph II. Il reçut Madame Sanseverina avec grâce. Il lui dit des choses spirituelles et fines, mais elle remarqua fort bien qu'il n'y avait pas excès dans la bonne réception. « Savez-vous pourquoi ?» lui dit le comte Mosca au retour de l'audience. « C'est que Milan est une ville plus grande et plus belle que Parme. Il eût craint, en vous faisant l'accueil auquel je m'attendais et qu'il m'avait fait espérer, d'avoir l'air d'un provincial en extase devant les grâces d'une belle dame arrivant de la capitale. Sans doute aussi il est encore contrarié d'une particularité que je n'ose vous dire. Le prince ne voit à sa cour aucune femme qui puisse vous le disputer en beauté. Tel a été hier soir, à son petit coucher, l'unique sujet de son entretien avec Pernice, son premier valet de chambre qui a des bontés pour moi. Je prévois une petite révolution dans l'étiquette. Mon plus grand ennemi à cette cour est un sot qu'on appelle le général Fabio Conti. Figurez-vous un original qui a été à la guerre un jour, peut-être en sa vie, et qui part de là pour imiter la tenue de Frédéric le Grand. De plus, il tient aussi à reproduire l'affabilité noble du général Lafayette, et cela parce qu'il est ici le chef du parti libéral. Dieu sait quels libéraux. Je connais le Fabio Conti, dit la duchesse. J'en ai eu la vision près de Côme. Il se disputait avec la gendarmerie. Elle raconta la petite aventure dont le lecteur se souvient peut-être. Vous saurez un jour, madame, si votre esprit parvient jamais à se pénétrer des profondeurs de notre étiquette, que les demoiselles ne paraissent à la cour qu'après leur mariage. Eh bien, le prince a pour la supériorité de sa ville de Parme sur toutes les autres un patriotisme tellement brûlant que je parierais qu'il va trouver un moyen de se faire présenter la petite Clelia Conti, fille de notre Lafayette. Elle est ma foi charmante et passait encore, il y a 8 jours, pour la plus belle personne des états du prince. Je ne sais, continua le comte, si les horreurs que les ennemis du souverain ont publiées sur son compte sont arrivées jusqu'au château de Grianta. On en a fait un monstre, un ogre. Le fait est qu'Ernest IV avait tout plein de bonnes petites vertus, et l'on peut ajouter que, s'il eût été invulnérable comme Achille, il eût continué à être le modèle des potentats. Mais dans un moment d'ennui et de colère, et aussi un peu pour imiter Louis XIV, faisant couper la tête à je ne sais quel héros de la Fronde, que l'on découvrit vivant tranquillement et insolemment dans une terre à côté de Versailles, 50 ans après la Fronde, Ernest IV a fait pendre un jour deux libéraux. Il paraît que ces imprudents se réunissaient à jour fixe pour dire du mal du prince et adresser au ciel des vœux ardents afin que la peste pût venir à Parme et les délivrer du tyran. Le mot « tyran » a été prouvé. Racy appela cela « conspirer ». Il les fit condamner à mort et l'exécution de l'un d'eux, le comte L, fut atroce. Ceci se passait avant moi. Depuis ce moment fatal, ajouta le comte en baissant la voix, le prince est sujet à des accès de peur indignes d'un homme, mais qui sont la source unique de la faveur dont je jouis. Sans la peur souveraine, j'aurais un genre de mérite trop brusque, trop âpre pour cette cour où l'imbécile foisonne. Croiriez-vous que le prince regarde sous les lits de son appartement avant de se coucher et dépense 1 million, ce qui à Parme est comme 4 millions à Milan, pour avoir une bonne police? Et vous voyez devant vous, madame la duchesse, le chef de cette police terrible. Par la police, c'est-à-dire par la peur, je suis devenu ministre de la guerre et des finances. Et comme le ministre de l'Intérieur est mon chef nominal, en tant qu'il a la police dans ses attributions, j'ai fait donner ce portefeuille au comte Zurla Contarini, un imbécile bourreau de travail qui se donne le plaisir d'écrire 80 lettres par jour. Je viens d'en recevoir une ce matin, sur laquelle le comte Zurla Contarini a eu la satisfaction d'écrire de sa propre main le numéro 20715. La duchesse Sanseverina fut présentée à la triste princesse de Parme, Clara Paolina, qui, parce que son mari avait une maîtresse, une assez jolie femme, la marquise Balbi, se croyait la plus malheureuse personne de l'univers, ce qui l'en avait rendue peut-être la plus ennuyeuse. La duchesse trouva une femme fort grande et fort maigre, qui n'avait pas 36 ans et en paraissait 50. Une figure régulière et noble eût pu passer pour belle, quoiqu'un peu déparée par de gros yeux ronds qui n'y voyaient guère, si la princesse ne se fût pas abandonnée elle-même. Elle reçut la duchesse avec une timidité si marquée que quelques courtisans ennemis du comte Mosca osèrent dire que la princesse avait l'air de la femme qu'on présente et la duchesse de la souveraine. La duchesse, surprise et presque déconcertée, ne savait où trouver des termes pour se mettre à une place inférieure à celle que la princesse se donnait à elle-même. Pour rendre quelque sang-froid à cette pauvre princesse, qui au fond ne manquait point d'esprit, la duchesse ne trouva rien de mieux que d'entamer et de faire durer une longue dissertation sur la botanique. La princesse était réellement savante en ce genre. Elle avait de fort belles serres avec force plantes des tropiques. La duchesse, en cherchant tout simplement à se tirer d'embarras, fit à jamais la conquête de la princesse Clara Paolina, qui, de timide et d'interdite qu'elle avait été au commencement de l'audience, se trouva vers la fin tellement à son aise que, contre toutes les règles de l'étiquette, cette première audience ne dura pas moins de 5 quarts d'heure. Le lendemain, la duchesse fit acheter des plantes exotiques et se porta pour grand amateur de botanique. La princesse passait sa vie avec le vénérable père Landriani, archevêque de Parme, homme de science, homme d'esprit même, et parfaitement honnête homme, mais qui offrait un singulier spectacle quand il était assis dans sa chaise de velours cramoisi. C'était le droit de sa place. Vis-à-vis le fauteuil de la princesse, entouré de ses dames d'honneur et de ses 2 dames pour accompagner. Le vieux prélat en longs cheveux blancs était encore plus timide, s'il se peut, que la princesse. Il se voyait tous les jours et toutes les audiences commençaient par un silence d'un gros quart d'heure. C'est au point que la comtesse Alvizi, une des dames pour accompagner, était devenue une sorte de favorite parce qu'elle avait l'art de les encourager à se parler et de les faire rompre le silence. Pour terminer le cours de ses présentations, la duchesse fut admise chez S.A.S., le prince héréditaire, personnage d'une plus haute taille que son père et plus timide que sa mère. Il était fort en minéralogie et avait 16 ans. Il rougit excessivement en voyant entrer la duchesse et fut tellement désorienté que jamais il ne put inventer un mot à dire à cette belle dame. Il était fort bel homme et passait sa vie dans les bois, un marteau à la main. Au moment où la duchesse se levait pour mettre fin à cette audience silencieuse, « Mon Dieu, madame, que vous êtes jolie !» s'écria le prince héréditaire, ce qui ne fut pas trouvé de trop mauvais goût par la dame présentée. La marquise Balbi, jeune femme de 25 ans, pouvait encore passer pour le plus parfait modèle du « joli italien », 2 ou 3 ans avant l'arrivée de la duchesse Sanseverina à Parme. Maintenant, c'étaient toujours les plus beaux yeux du monde et les petites mines les plus gracieuses. Mais, vue de près, sa peau était parsemée d'un nombre infini de petites rides fines qui faisaient de la marquise comme une jeune vieille. Aperçue à une certaine distance, par exemple au théâtre, dans sa loge, c'était encore une beauté, et les gens du parterre trouvaient le prince de fort bon goût. Il passait toutes les soirées chez la marquise Balbi, mais souvent sans ouvrir la bouche. Et l'ennui où elle voyait le prince avait fait tomber cette pauvre femme dans une maigreur extraordinaire. Elle prétendait à une finesse sans bornes et toujours souriait avec malice. Elle avait les plus belles dents du monde et à tout hasard, n'ayant guère de sens, elle voulait, par un sourire malin, faire entendre autre chose que ce que disaient ses paroles. Le comte Mosca disait que c'était ses sourires continuels, tandis qu'elle bâillait intérieurement, qui lui donnaient tant de rides. La Balbi entrait dans toutes les affaires, et l'État ne faisait pas un marché de 1 000 francs sans qu'il y eût un souvenir pour la marquise. C'était le mot honnête à Parme. Le bruit public voulait qu'elle eût placé 6 millions de francs en Angleterre, mais sa fortune, à la vérité de fraîche date, ne s'élevait pas en réalité à 1 500 000 francs. C'était pour être à l'abri de ses finesses et pour l'avoir dans sa dépendance que le comte Mosca s'était fait ministre des Finances. La seule passion de la marquise était la peur déguisée en avarice sordide. « Je mourrai sur la paille », disait-elle quelquefois au prince que ce propos outrait. La duchesse remarqua que l'antichambre, resplendissante de dorure, du palais de la Balbi, était éclairée par une seule chandelle coulant sur une table de marbre précieux, et les portes de son salon étaient noircies par les doigts des laquais. « Elle m'a reçue, dit la duchesse à son amie, comme si elle eût attendu de moi une gratification de 50 francs. » Le cours des succès de la duchesse fut un peu interrompu par la réception que lui fit la femme la plus adroite de la cour, la célèbre marquise Raversi, intrigante consommée qui se trouvait à la tête du parti opposé à celui du comte Mosca. Elle voulait le renverser, et d'autant plus depuis quelques mois qu'elle était nièce du comte Sanseverina et craignait de voir attaquer l'héritage par les grâces de la nouvelle duchesse. « La Raversi n'est point une femme à mépriser, » disait le comte à son ami. « Je la tiens pour tellement capable de tout que je me suis séparée de ma femme uniquement parce qu'elle s'obstinait à prendre pour amant le chevalier Bentivoglio, l'un des amis de la Raversi. » Cette dame, grande virago aux cheveux fort noirs, remarquable par les diamants qu'elle portait dès le matin et par le rouge dont elle couvrait ses joues, s'était déclarée d'avance l'ennemie de la duchesse, et en la recevant chez elle, prit à tâche de commencer la guerre. Le duc Sanseverina, dans les lettres qu'il écrivait de « paraissait tellement enchanté de son ambassade, et surtout de l'espoir du grand cordon, que sa famille craignait qu'il ne laissât une partie de sa fortune à sa femme, qui l'accablait de petits cadeaux. » La Raversi, quoique régulièrement laide, avait pour amant le comte Baldi, le plus joli homme de la cour. En général, elle réussissait à tout ce qu'elle entreprenait. La duchesse tenait le plus grand état de maison. Le palais San Severina avait toujours été l'un des plus magnifiques de la ville de Parme. Et le duc, à l'occasion de son ambassade et de son futur grand cordon, dépensait de fort grosses sommes pour l'embellir. La duchesse dirigeait les réparations. Le comte avait deviné juste. Peu de jours après la présentation de la duchesse, la jeune Clelia Conti vint à la cour. On l'avait faite chanoinesse. Afin de parer le coup que cette faveur pouvait avoir l'air de porter au crédit du comte, la duchesse donna une fête sous prétexte d'inaugurer le jardin de son palais. Et, par ses façons pleines de grâce, elle fit de Clélia, qu'elle appelait sa jeune amie du lac de Côme, la reine de la soirée. Son chiffre se trouva comme par hasard sur les principaux transparents. La jeune Clélia, quoique un peu pensive, fut aimable dans ses façons de parler de la petite aventure près du lac et de sa vive reconnaissance. On la disait fort dévote et fort amie de la solitude. « Je parierais, disait le comte, qu'elle a assez d'esprit pour avoir honte de son père. » La duchesse fit son amie de cette jeune fille. Elle se sentait de l'inclination pour elle. Elle ne voulait pas paraître jalouse et la mettait à toutes ses parties de plaisir. Enfin, son système était de chercher à diminuer toutes les haines dont le comte était l'objet. Tout souriait à la duchesse. Elle s'amusait de cette existence de cour où la tempête est toujours à craindre. Il lui semblait recommencer la vie. Elle était tendrement attachée au comte qui, littéralement, était fou de bonheur. Cette aimable situation lui avait procuré un sang-froid parfait pour tout ce qui ne regardait que ses intérêts d'ambition. Aussi, 2 mois à peine après l'arrivée de la duchesse, il obtint la patente et les honneurs de premier ministre, lesquels approchent fort de ce que l'on rend au souverain lui-même. Le comte pouvait tout sur l'esprit de son maître. On en eut à Parme une preuve qui frappa tous les esprits. Au sud-est, et à 10 minutes de la ville, s'élève cette fameuse citadelle si renommée en Italie, et dont la grosse tour a 180 pieds de haut et s'aperçoit de si loin. Cette tour, bâtie sur le modèle du mausolée d'Adrien, à Rome, par les Farnèse, petit-fils de Paul III, vers le commencement du XVIe siècle, est tellement épaisse que sur l'esplanade qui la termine, on a pu bâtir un palais pour le gouverneur de la citadelle et une nouvelle prison appelée la Tour Farnèse. Cette prison, construite en l'honneur du fils aîné de Ranucci Ernest II, lequel était devenu l'amant aimé de sa belle-mère, passe pour belle et singulière dans le pays. La duchesse eut la curiosité de la voir. Le jour de sa visite, la chaleur était accablante à Parme. Et là-haut, dans cette position élevée, elle trouva de l'air, ce dont elle fut tellement ravie qu'elle y passa plusieurs heures. On s'empressa de lui ouvrir les salles de la tour Farnèse. La duchesse rencontra sur l'esplanade de la grosse tour un pauvre libéral prisonnier qui était venu jouir de la demi-heure de promenade qu'on lui accordait tous les 3 jours. Redescendu à Parme et n'ayant pas encore la discrétion nécessaire dans une cour absolue, elle parla de cet homme qui lui avait raconté toute son histoire. Le parti de la marquise Raversi s'empara de ces propos de la duchesse et les répéta beaucoup, espérant fort qu'il choquerait le prince. En effet, Ernest IV répétait souvent que l'essentiel était surtout de frapper les imaginations. « Toujours » est un grand mot, disait-il, et plus terrible en Italie qu'ailleurs. En conséquence, de sa vie, il n'avait accordé de grâce. 8 jours après sa visite à la forteresse, la duchesse reçut une lettre de commutation de peine, signée du prince et du ministre, avec le nom en blanc. Le prisonnier dont elle écrirait le nom devait obtenir la restitution de ses biens et la permission d'aller passer en Amérique le reste de ses jours. La duchesse écrivit le nom de l'homme qui lui avait parlé. Par malheur, cet homme se trouva un demi-coquin, une âme faible. C'était sur ses aveux que le fameux Ferrante Pala avait été condamné à mort. La singularité de cette grâce mit le comble à l'agrément de la position de Madame Sanseverina. Le comte Mosca était fou de bonheur. Ce fut une belle époque de sa vie et elle eut une influence décisive sur les destinées de Fabrice. Celui-ci était toujours à Romagnan, près de Novare, se confessant, chassant, ne lisant point et faisant la cour à une femme noble comme le portaient ses instructions. La duchesse était toujours un peu choquée par cette dernière nécessité. Un autre signe qui ne valait rien pour le comte, c'est qu'étant avec lui de la dernière franchise sur tout au monde et pensant tout haut en sa présence, elle ne lui parlait jamais de Fabrice qu'après avoir songé à la tournure de sa phrase. « Si vous voulez, lui disait un jour le comte, j'écrirai à cet aimable frère que vous avez sur le lac de Côme, et je forcerai bien ce marquis del Dongo, avec un peu de peine pour moi et mes amis d'eux, à demander la grâce de votre aimable Fabrice. S'il est vrai, comme je me garderai bien d'en douter, que Fabrice soit un peu au-dessus des jeunes gens qui promènent leurs chevaux anglais dans les rues de Milan, quelle vie que celle qui, à 18 ans, ne fait rien et a la perspective de ne jamais rien faire. Si le ciel lui avait accordé une vraie passion pour quoi que ce soit, fût-ce pour la pêche à la ligne, je la respecterais. Mais que fera-t-il à Milan, même après sa grâce obtenue? Il montera un cheval qu'il aura fait venir d'Angleterre à une certaine heure. À une autre, le désœuvrement le conduira chez sa maîtresse, qu'il aimera moins que son cheval. Mais si vous m'en donnez l'ordre, je tâcherai de procurer ce genre de vie à votre neveu. « Je le voudrais officier, » dit la duchesse. « Conseilleriez-vous à un souverain de confier un poste qui, dans un jour donné, peut être de quelque importance à un jeune homme, premièrement susceptible d'enthousiasme, deuxièmement qui a montré de l'enthousiasme pour Napoléon au point d'aller le rejoindre à Waterloo? Songez à ce que nous serions tous si Napoléon eût vaincu à Waterloo. Nous n'aurions point de libéraux à craindre, il est vrai. » Mais les souverains des anciennes familles ne pourraient régner qu'en épousant les filles de ces maréchaux. Ainsi, la carrière militaire pour Fabrice, c'est la vie de l'écureuil dans la cage qui tourne. Beaucoup de mouvements pour n'avancer en rien. Il aura le chagrin de se voir primé par tous les dévouements plébéiens. La première qualité chez un jeune homme aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 50 ans peut-être, tant que nous aurons peur et que la religion ne sera point rétablie, c'est de n'être pas susceptible d'enthousiasme et de n'avoir pas d'esprit. J'ai pensé à une chose, mais qui va vous faire jeter les hauts cris d'abord, et qui me donnera à moi des peines infinies. Et pendant plus d'un jour, c'est une folie que je veux faire pour vous. Mais dites-moi, si vous le savez, quelle folie je ne ferai pas pour obtenir un sourire. Eh bien, dit la duchesse, eh bien, nous avons eu pour archevêque à Parme 3 membres de votre famille. Ascagne del Dongo, qui a écrit en 1600, Fabrice en 1699, et un second Ascagne en 1740. Si Fabrice veut entrer dans la prélature et marqué par des vertus du premier ordre, je le fais évêque quelque part, puis archevêque ici, si toutefois mon influence dure. L'objection réelle est celle-ci. Resterai-je ministre assez longtemps pour réaliser ce beau plan qui exige plusieurs années? Le prince peut mourir, il peut avoir le mauvais goût de me renvoyer. Mais enfin, c'est le seul moyen que j'ai de faire pour Fabrice quelque chose qui soit digne de vous. On discuta longtemps. Cette idée répugnait fort à la duchesse. Reprouvez-moi, dit-elle au comte, que toute autre carrière est impossible pour Fabrice. Le comte prouva. Vous regrettez, ajouta-t-il, le brillant uniforme, mais à cela je ne sais que faire. Après un mois que la duchesse avait demandé pour réfléchir, elle se rendit en soupirant au vu sage du ministre. monter d'un air empesé un cheval anglais dans quelque grande ville, répétait le comte, ou prendre un état qui ne jure pas avec sa naissance, je ne vois pas de milieu. Par malheur, un gentilhomme ne peut se faire ni médecin ni avocat, et le siècle est aux avocats. Rappelez-vous toujours, madame, répétait le comte, que vous faites à votre neveu, sur le pavé de Milan, le sort dont jouissent les jeunes gens de son âge qui passent pour les plus fortunés. Sa grâce obtenue, vous lui donnez 15, 20, 30 000 francs, peu vous importe, ni vous ni moi ne prétendons faire des économies. La duchesse était sensible à la gloire. Elle ne voulait pas que Fabrice fût un simple mangeur d'argent. Elle revint au plan de son amant. « Remarquez, lui disait le comte, que je ne prétends pas faire de Fabrice un prêtre exemplaire comme vous en voyez tant. Non, c'est un grand seigneur avant tout. Il pourra rester parfaitement ignorant si bon lui semble, et n'en deviendra pas moins évêque et archevêque si le prince continue à me regarder comme un homme utile. Si vos ordres daignent changer ma proposition en décret immuable, ajouta le comte, il ne faut point que Parme voie notre protégé dans une petite fortune. La sienne choquera si on l'a vu ici simple prêtre. Il ne doit paraître à Parme qu'avec les bas violets et dans un équipage convenable. Tout le monde alors devinera que votre neveu doit être évêque et personne ne sera choqué. Si vous m'en croyez, vous enverrez Fabrice faire sa théologie et passer 3 années à Naples. Pendant les vacances de l'Académie ecclésiastique, il ira, s'il veut, voir Paris et Londres, mais il ne se montrera jamais à Parme. » Ce mot donna comme un frisson à la duchesse. Elle envoya un courrier à son neveu et lui donna rendez-vous à Plaisance. Faut-il dire que ce courrier était porteur de tous les moyens d'argent et de tous les passeports nécessaires. Arrivé le premier à Plaisance, Fabrice courut au devant de la duchesse et l'embrassa avec des transports qui la firent fondre en larmes. Elle fut heureuse que le comte ne fût pas présent. Depuis leurs amours, c'était la première fois qu'elle éprouvait cette sensation. Fabrice fut profondément touché et ensuite affligé des plans que la duchesse avait faits pour lui. Son espoir avait toujours été que, son affaire de Waterloo arrangée, il finirait par être militaire. Une chose frappa la duchesse et augmenta encore l'opinion romanesque qu'elle s'était formée de son neveu. Il refusa absolument de mener la vie de café dans une des grandes villes d'Italie. « Te vois-tu au corso de Florence ou de Naples ?» disait la duchesse, « avec des chevaux anglais de pur sang, pour le soir une voiture, un joli appartement, etc. » Elle insistait avec délices sur la description de ce bonheur vulgaire qu'elle voyait Fabrice repousser avec dédain. « C'est un héros, » pensait-elle. « Et après 10 ans de cette vie agréable, qu'aurais-je fait ?» disait Fabrice. « Que serais-je ? Un jeune homme mûr qui doit céder le haut du pavé au premier bel adolescent qui débute dans le monde, lui aussi sur un cheval anglais ?» Fabrice rejeta d'abord bien loin le parti de l'Église. Il parlait d'aller à New York, de se faire citoyen et soldat républicain en Amérique. « Quelle erreur est la tienne ! Tu n'auras pas la guerre et tu retombes dans la vie de café, seulement sans élégance, sans musique, sans amour, » répliqua la duchesse. « Crois-moi, pour toi comme pour moi, ce serait une triste vie que celle d'Amérique. » Elle lui expliqua le culte du dieu dollar et ce respect qu'il faut avoir pour les artisans de la rue, qui, par leur vote, décident de tout. On revint au parti de l'Église. « Avant de te gendarmer, lui dit la duchesse, comprends donc ce que le comte te demande. Il ne s'agit pas du tout d'être un pauvre prêtre, plus ou moins exemplaire et vertueux, comme l'abbé Blanès. Rappelle-toi ce que furent tes oncles, les archevêques de Parme. Relis les notices sur leur vie dans le supplément à la généalogie. Avant tout, il convient à un homme de ton nom d'être un grand seigneur, noble, généreux, protecteur de la justice, destiné d'avance à se trouver à la tête de son ordre, et dans toute sa vie ne faisant qu'une coquinerie, mais celle-là fort utile. « Ainsi voilà toutes mes illusions à volo, » disait Fabrice en soupirant profondément. « Le sacrifice est cruel, je l'avoue. Je n'avais pas réfléchi à cette horreur pour l'enthousiasme et l'esprit, même exercé à leur profit, qui désormais va régner parmi les souverains absolus. Songe qu'une proclamation, qu'un caprice du cœur précipite l'homme enthousiaste dans le parti contraire à celui qui l'a servi toute la vie. « Moi, enthousiaste ? » répéta Fabrice. « Étrange accusation. Je ne puis pas même être amoureux. Comment ? » s'écria la duchesse. « Quand j'ai l'honneur de faire la cour à une beauté, même de bonne naissance et dévote, je ne puis penser à elle que quand je la vois. » Cet aveu fit une étrange impression sur la duchesse. « Je te demande un mois, » reprit Fabrice, « pour prendre congé de Madame C. de Novare, et, ce qui est encore plus difficile, des châteaux en Espagne de toute ma vie. J'écrirai à ma mère, qui sera assez bonne pour venir me voir à Belgirate, sur la rive piémontaise du lac Majeur, et le 31e jour après celui-ci, je serai incognito dans Parme. « Garde-t'en bien !» s'écria la duchesse. Elle ne voulait pas que le comte Mosca la vît parler à Fabrice. Les mêmes personnages se revirent à plaisance. La duchesse, cette fois, était fort agitée. Un orage s'était élevé à la cour. Le parti de la marquise Raversi touchait au triomphe. Il était possible que le comte Mosca fût remplacé par le général Fabio Conti, chef de ce qu'on appelait à Parme le parti libéral. Excepté le nom du rival qui croissait dans la faveur du prince, la duchesse dit tout à Fabrice. Elle discuta de nouveau les chances de son avenir, même avec la perspective de manquer de la toute-puissante protection du comte. « Je vais passer 3 ans à l'Académie ecclésiastique de Naples, » s'écria Fabrice. « Mais puisque je dois être avant tout un jeune gentilhomme, et que tu ne m'astreins pas à mener la vie sévère d'un séminariste vertueux, ce séjour à Naples ne m'effraie nullement. » Cette villa vaudra bien celle de Romagnano. La bonne compagnie de l'endroit commençait à me trouver jacobin. Dans mon exil, j'ai découvert que je ne sais rien, pas même le latin, pas même l'orthographe. J'avais le projet de refaire mon éducation à Novare. J'étudierai volontiers la théologie à Naples. C'est une science compliquée. La duchesse fut ravie. « Si nous sommes chassés, lui dit-elle, nous irons te voir à Naples. Mais puisque tu acceptes jusqu'à nouvel ordre le parti des bas violets, le comte, qui connaît bien l'Italie actuelle, m'a chargé d'une idée pour toi. Crois ou ne crois pas à ce qu'on t'enseignera, mais ne fais jamais aucune objection. Figure-toi qu'on t'enseigne les règles du jeu de whist. Est-ce que tu ferais des objections aux règles du whist ? J'ai dit au comte que tu croyais, et il s'en est félicité. Cela est utile dans ce monde et dans l'autre. Mais si tu crois, ne tombe point dans la vulgarité de parler avec horreur de Voltaire, Diderot, Rénal et de tous ces écervelés de Français précurseurs des deux chambres. Que ces noms-là se trouvent rarement dans ta bouche. Mais enfin, quand il le faut, parle de ces messieurs avec une ironie calme. Ce sont gens depuis longtemps réfutés et dont les attaques ne sont plus d'aucune conséquence. Crois aveuglément tout ce que l'on te dira à l'Académie. Songe qu'il y a des gens qui tiendront note fidèle de tes moindres objections. On te pardonnera une petite intrigue galante si elle est bien menée, et non pas un doute. L'âge supprime l'intrigue et augmente le doute. Agis sur ce principe au tribunal de la pénitence. Tu auras une lettre de recommandation pour un évêque factotum du cardinal archevêque de Naples. À lui seul, tu dois avouer ton escapade en France et ta présence, le 18 juin, dans les environs de Waterloo. Du reste, abrège beaucoup, diminue cette aventure. Avoue-la seulement pour qu'on ne puisse pas te reprocher de l'avoir cachée. Tu étais si jeune alors. La seconde idée que le comte t'envoie est celle-ci. S'il te vient une raison brillante, une réplique victorieuse qui change le cours de la conversation, ne cède point à la tentation de briller, garde le silence. Les gens fins verront ton esprit dans tes yeux. Il sera temps d'avoir de l'esprit quand tu seras évêque. Fabrice débuta à Naples avec une voiture modeste et 4 domestiques, bons Milanais que sa tante lui avait envoyés. Après une année d'études, personne ne disait que c'était un homme d'esprit. On le regardait comme un grand seigneur appliqué, fort généreux, mais un peu libertin. Cette année, assez amusante pour Fabrice, fut terrible pour la duchesse. Le comte fut 3 ou 4 fois à 2 doigts de sa perte. Le prince, plus peureux que jamais parce qu'il était malade cette année-là, croyait, en le renvoyant, se débarrasser de l'odieux des exécutions faites avant l'entrée du comte au ministère. Le Rassi était le favori du cœur qu'on voulait garder avant tout. Les périls du comte lui attachèrent passionnément la duchesse. Elle ne songeait plus à Fabrice. Pour donner une couleur à leur retraite possible, il se trouva que l'air de Parme, un peu humide en effet, comme celui de toute la Lombardie, ne convenait nullement à sa santé. Enfin, après des intervalles de disgrâce, qui allèrent pour le comte, premier ministre, jusqu'à passer quelquefois 20 jours entiers sans voir son maître en particulier, Mosca l'emporta. Il fit nommer le général Fabio Conti, le prétendu libéral, gouverneur de la citadelle, où l'on enfermait les libéraux jugés par Rassi. Si Conti eût d'indulgence envers ses prisonniers, disait Mosca à son ami, on le disgracie comme un jacobin auquel ses idées politiques font oublier ses devoirs de général. S'il se montre sévère et impitoyable, et c'est, ce me semble, de ce côté-là qu'il inclinera, il cesse d'être le chef de son propre parti et s'aliène toutes les familles qui ont un des leurs à la citadelle. Ce pauvre homme sait prendre un air tout confit de respect à l'approche du prince. Au besoin, il change de costume 4 fois en un jour. Il peut discuter une question d'étiquette, mais ce n'est point une tête capable de suivre le chemin difficile par lequel seulement il peut se sauver. Et dans tous les cas, je suis là. Le lendemain de la nomination du général Fabio Conti, qui terminait la crise ministérielle, on apprit que Parme aurait un journal ultra-monarchique. « Que de querelles ce journal va faire naître !» disait la duchesse. Ce journal, dont l'idée est peut-être mon chef-d'œuvre, répondait le comte en riant. Peu à peu, je m'en laisserai bien malgré moi ôter la direction par les ultra-furibonds. J'ai fait attacher de beaux appointements aux places de rédacteur. De tous côtés, on va solliciter ces places. Cette affaire va nous faire passer 1 mois ou 2, et l'on oubliera les périls que je viens de courir. Les graves personnages P et D sont déjà sur les rangs. Mais ce journal sera d'une absurdité révoltante. J'y compte bien, répliquait le comte. Le prince le lira tous les matins et admirera ma doctrine à moi qui l'ai fondée. Pour les détails, il approuvera ou sera choqué. Des heures qu'il consacre au travail, en voilà 2 de prise. Le journal se fera des affaires, mais à l'époque où arriveront les plaintes sérieuses, dans 8 ou 10 mois, il sera entièrement dans les mains des ultra-furibonds. Ce sera ce parti qui me gêne qui devra répondre. Moi, j'élèverai des objections contre le journal. Au fond, j'aime mieux 100 absurdités atroces qu'un seul pendu. Qui se souvient d'une absurdité 2 ans après le numéro du journal officiel? Au lieu que les fils et la famille du pendu me vouent une haine qui durera autant que moi et qui peut-être abrégera ma vie. La duchesse, toujours passionnée pour quelque chose, toujours agissante, jamais oisive, avait plus d'esprit que toute la cour de Parme. Mais elle manquait de patience et d'impassibilité pour réussir dans les intrigues. Toutefois, elle était parvenue à suivre avec passion les intérêts des diverses coteries. Elle commençait même à avoir un crédit personnel auprès du prince. Clara Paolina, la princesse régnante, environnée d'honneurs, mais emprisonnée dans l'étiquette la plus surannée, se regardait comme la plus malheureuse des femmes. La duchesse Sanseverina lui fit la cour et entreprit de lui prouver qu'elle n'était point si malheureuse. Il faut savoir que le prince ne voyait sa femme qu'à dîner. Ce repas durait 30 minutes et le prince passait des semaines entières sans adresser la parole à Clara Paolina. Madame Sanseverina essaya de changer tout cela. Elle amusait le prince, et d'autant plus qu'elle avait su conserver toute son indépendance. Quand elle l'eut voulu, elle n'eût pas pu ne jamais blesser aucun des sots qui pullulaient à cette cour. C'était cette parfaite inhabileté de sa part qui la faisait exécrer du vulgaire des courtisans. Tous, comtes ou marquis, jouissant en général de 5 000 livres de rente. Elle comprit ce malheur dès les premiers jours et s'attacha exclusivement à plaire au souverain et à sa femme, laquelle dominait absolument le prince héréditaire. La duchesse savait amuser le souverain et profiter de l'extrême attention qu'il accordait à ses moindres paroles pour donner de bons ridicules aux courtisans qui la haïssaient. Depuis les sottises que Racine lui avait fait faire, et les sottises de sang ne se réparent pas, le prince avait peur quelquefois, et s'ennuyait souvent, ce qui l'avait conduit à la triste envie. Il sentait qu'il ne s'amusait guère, et devenait sombre quand il croyait voir que d'autres s'amusaient. L'aspect du bonheur le rendait furieux. « Il faut cacher nos amours, » dit la duchesse à son amie. Et elle laissa deviner au prince qu'elle n'était plus que fort médiocrement éprise du comte, homme d'ailleurs si estimable. Cette découverte avait donné un jour heureux à son Altesse. De temps à autre, la duchesse laissait tomber quelques mots du projet qu'elle aurait de se donner chaque année un congé de quelques mois, qu'elle emploierait à voir l'Italie qu'elle ne connaissait point. Elle irait visiter Naples, Florence, Rome. Or, rien au monde ne pouvait faire plus de peine au prince qu'une telle apparence de désertion. C'était là une de ses faiblesses les plus marquées. Les démarches qui pouvaient être imputées à mépris pour sa ville capitale lui perçaient le cœur. Il sentait qu'il n'avait aucun moyen de retenir Madame Sanseverina. Et Madame Sanseverina était de bien loin la femme la plus brillante de Parme. Chose unique avec la paresse italienne, on revenait des campagnes environnantes pour assister à ses jeudis. C'était de véritables fêtes. Presque toujours, la duchesse, il y avait quelque chose de neuf et de piquant. Le prince mourait d'envie de voir un de ces jeudis. Mais comment s'y prendre? Aller chez un simple particulier? C'est une chose que ni son père ni lui n'avaient jamais faite. Un certain jeudi, il pleuvait, il faisait froid. À chaque instant de la soirée, le duc entendait des voitures qui ébranlaient le pavé de la place du palais en allant chez Madame Sanseverina. Il eut un mouvement d'impatience. D'autres s'amusaient, et lui, prince souverain, maître absolu, qui devait s'amuser plus que personne au monde, il connaissait l'ennui. Il sonna son aide de camp. Il fallut le temps de placer une douzaine de gens affidés dans la rue qui conduisait du palais de son Altesse au palais Sanseverina. Enfin, après une heure qui parut un siècle au prince, et pendant laquelle il fut 20 fois tenté de braver les poignards et de sortir à l'étourdi et sans nulle précaution, il parut dans le premier salon de Madame Sanseverina. La foudre serait tombée dans ce salon qu'elle n'eût pas produit une pareille surprise. En un clin d'œil, et à mesure que le prince s'avançait, s'établissait dans ces salons si bruyants et si gais un silence de stupeur. Tous les yeux fixés sur le prince s'ouvraient outre mesure. Les courtisans paraissaient déconcertés. La duchesse, elle seule, n'eut point l'air étonnée. Quand enfin l'on eut retrouvé la force de parler, la grande préoccupation de toutes les personnes présentes fut de décider cette importante question. La duchesse avait-elle été avertie de cette visite, ou bien a-t-elle été surprise comme tout le monde ? Le prince s'amusa. Et l'on va juger du caractère tout de premier mouvement de la duchesse et du pouvoir infini que les idées vagues de départ adroitement jetées lui avaient laissé prendre. En reconduisant le prince qui lui adressait des mots fort aimables, il lui vint une idée singulière et qu'elle osa bien lui dire tout simplement et comme une chose des plus ordinaires. « Si votre Altesse Sérénissime voulait adresser à la princesse trois ou quatre de ces phrases charmantes qu'elle me prodigue, elle ferait mon bonheur bien plus sûrement qu'en me disant ici que je suis jolie. C'est que je ne voudrais pas pour tout au monde que la princesse pût voir de mauvais œil l'insigne marque de faveur dont votre Altesse vient de m'honorer. » Le prince la regarda fixement et répliqua d'un air sec. « Apparemment que je suis le maître d'aller où il me plaît. » La duchesse rougit. « Je voulais seulement, reprit-elle à l'instant, ne pas exposer son Altesse à faire une course inutile, car ce jeudi sera le dernier. Je vais aller passer quelques jours à Bologne ou à Florence. » Comme elle rentrait dans ses salons, tout le monde la croyait au comble de la faveur. Et elle venait de hasarder ce que de mémoire d'homme personne n'avait osé à Parme. Elle fit un signe au comte qui quitta sa table de whist et la suivit dans un petit salon éclairé mais solitaire. « Ce que vous avez fait est bien hardi, lui dit-il. Je ne vous l'aurais pas conseillé. Mais dans les cœurs bien épris, ajouta-t-il en riant, le bonheur augmente l'amour. Et si vous partez demain matin, je vous suis demain soir. Je ne serai retardé que par cette corvée du ministère des Finances dont j'ai eu la sottise de me charger. Mais en 4 heures de temps bien employées, on peut faire la remise de bien des caisses. Rentrons, cher ami, et faisons de la fatuité ministérielle en toute liberté et sans nulle retenue. C'est peut-être la dernière représentation que nous donnons en cette ville. S'il se croit bravé, l'homme est capable de tout. Il appellera cela « faire un exemple ». Quand ce monde sera parti, nous aviserons aux moyens de vous barricader pour cette nuit. Le mieux serait peut-être de partir sans délai pour votre maison de Saka, près du Pô, qui a l'avantage de n'être qu'à une demi-heure de distance des États autrichiens. L'amour et l'amour-propre de la duchesse eurent un moment délicieux. Elle regarda le comte, et ses yeux se mouillèrent de larmes. Un ministre si puissant, environné de cette foule de courtisans, qu'il accablait d'hommages égaux à ceux qu'ils adressaient au prince lui-même, tout quitté pour elle, et avec cette aisance. En rentrant dans les salons, elle était folle de joie. Tout le monde se prosternait devant elle. « Comme le bonheur change la duchesse !» disaient de toutes parts les courtisans. « C'est à ne pas la reconnaître. Enfin, cette âme romaine et au-dessus de tout daigne pourtant apprécier la faveur exorbitante dont elle vient d'être l'objet de la part du souverain. » Vers la fin de la soirée, le comte vint à elle. « Il faut que je vous dise des nouvelles. » Aussitôt, les personnes qui se trouvaient auprès de la duchesse s'éloignèrent. « Le prince, en rentrant au palais, continua le comte, s'est fait annoncer chez sa femme. Jugez de la surprise. Je viens vous rendre compte, lui a-t-il dit, d'une soirée fort aimable, en vérité, que j'ai passée chez la Sanseverina. C'est elle qui m'a prié de vous faire le détail de la façon dont elle a arrangé ce vieux palais enfumé. » Alors le prince, après s'être assis, s'est mis à faire la description de chacun de vos salons. Il a passé plus de 20 minutes chez sa femme qui pleurait de joie. Malgré son esprit, elle n'a pas pu trouver un mot pour soutenir la conversation sur le ton léger que son Altesse voulait bien lui donner. Ce prince n'était point un méchant homme, quoi qu'en puissent dire les libéraux d'Italie. À la vérité, il avait fait jeter dans les prisons un assez bon nombre d'entre eux, mais c'était par peur. et il répétait quelquefois, comme pour se consoler de certains souvenirs, « Il vaut mieux tuer le diable que si le diable nous tue. » Le lendemain de la soirée dont nous venons de parler, il était tout joyeux. Il avait fait deux belles actions. Aller au jeudi et parler à sa femme. À dîner, il lui adressa la parole. En un mot, ce jeudi de Madame Sanseverina amena une révolution d'intérieur dont tout part me retentit. La Raversi fut consternée, et la duchesse eut une double joie. Elle avait pu être utile à son amant et l'avait trouvé plus épris que jamais. Tout cela à cause d'une idée bien imprudente qui m'est venue, disait-elle au comte. Je serai plus libre sans doute à Rome ou à Naples, mais y trouverai-je un jeu aussi attachant ? Non, en vérité, mon cher comte, et vous faites mon bonheur.